Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Faut-il interdire les tribunaux islamiques au Royaume-Uni ? C'est à cette curieuse question que vont tenter de répondre deux enquêtes, l'une du gouvernement britannique, l'autre du Parlement. On compte en effet plusieurs dizaines de Sharia courts dans le pays qui ont des compétences strictement familiales, mariage, divorce, garde des enfants. Mais leurs décisions doivent-elles et peuvent-elles cohabiter avec les juridictions civiles britanniques ? Le débat est lancé, c'est le reportage de Marie Billon.
Je trouve ça très bizarre de me trouver ici, dans le Parlement britannique, dans l'une des plus grandes démocraties, pour parler des tribunaux islamiques et de leur attitude discriminatoire envers les femmes. Ils ne devraient pas exister.
Ouzan Mahmoud est l'une des 8 féministes qui participaient à une discussion publique sur les Sharia Courts. L'événement se tenait à Westminster, une réunion militante, informelle, en marge de l'enquête parlementaire. Gina Khan faisait partie du panel. Elle dit avoir eu recours à l'un de ces tribunaux islamique en 1995.
J'étais une mère de 2 enfants en détresse. Je suis allée voir des imams pour demander de l'aide. Je leur ai dit que j'étais une victime de violences domestiques, que mon époux ne me donnait pas d'argent, qu'il s'en fichait. Et je n'ai reçu aucune aide adéquate.
Gina dit avoir finalement décidé de régler le divorce en privé en faisant signer un papier devant des membres de leur famille comme témoin. En fait, Gina était mariée religieusement mais pas civilement. Son mariage n'était pas légal aux yeux de la loi. C'est pour cela que son époux a pu épouser légalement une autre femme sans accorder à Gina la séparation officielle qu'elle demandait. Aujourd'hui, elle fait campagne contre ces Sharia courts.
Ils vous disent des choses comme « c'est toujours mieux de rester ensemble, qu'on n'aurait nulle part où aller de toute façon, surtout avec des enfants ». Accepte la situation, ils disent. C'est un business, un vrai business. Ils demandent 2 à 400 livres. Même quand une femme est mariée civilement, ils prennent votre argent.
C'est que certaines familles et communautés conservatrices n'acceptent le divorce qu'une fois validé par un religieux, même s'il a été prononcé par un juge. Pourtant, ces tribunaux n'obéissent à aucune réglementation. Ils peuvent être composés d'un seul imam ou de plusieurs, ou juste être rattachés à une mosquée. Il existe une charia courte dans laquelle siège une femme, mais c'est l'exception. Pour Mariam Namazier, de l'organisation One Law for All, une loi pour tous, c'est juste un moyen de contrôler les femmes.
Les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 femmes, donc ils n'ont pas besoin d'un mariage ou d'un divorce civil. C'est la loi des hommes imposée aux femmes. Leur but, c'est de contrôler les femmes. Alors à cause de ces tribunaux, de plus en plus de femmes ne font plus officialiser leur mariage parce qu'on leur fait croire que ces cours sont légales.
Mais justement, le problème, selon Mariam, c'est qu'elles ne sont pas illégales.
Ces tribunaux ont le statut d'organisme de bienfaisance. D'autres se réclament de la loi sur l'arbitrage. Elles ont un statut légal. Nous, ce que nous disons, c'est que cette justice parallèle ne devrait pas exister. Il faut que nous rappelions aux femmes quels sont leurs droits. Et il faut que le gouvernement défende une loi laïque pour tous.
Ces femmes se sont réunies ce soir pour appeler à l'interdiction pure et simple de ces tribunaux islamiques, mais Geeta Sagal sait que le gouvernement n'est pas en faveur d'une manœuvre aussi radicale.
Personne n'a jamais reproché aux mollahs de saper l'autorité des lois britanniques, parce que la police notamment travaille avec eux. Ils vont les voir pour boire le thé et recueillir des informations dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et puis c'est aussi une question d'argent. La résolution de conflits par des moyens alternatifs est vue comme une solution pour le gouvernement parce que ça coûte moins cher au système judiciaire.
Ce soir-là, au Parlement, il n'y avait que des participants critiques à l'égard des Sharia courts. Mais lors des auditions effectuées dans le cadre de l'enquête parlementaire, des partisans de ces cours musulmanes se sont exprimés. Pour Zlaka Ahmed, qui est elle-même passée par ses imams pour divorcer et qui a été décorée par la reine pour son organisation APNAAC pour le droit des femmes, ces tribunaux permettent aussi aux femmes de se libérer.
99% de ces femmes, si elles n'étaient pas passées par ces canaux, seraient restées dans un mariage abusif. Elles ne se sentiraient pas le droit, dans l'islam, de quitter ce mariage, même quand un divorce civil a été prononcé. Donc ces tribunaux offrent une porte de sortie à ces femmes très religieuses.
Pour cela, il faut compter avec le poids des traditions. C'est pour cela, selon Shaista Goir, chef du réseau des femmes musulmanes Muslim Women's Network UK, que ce serait une erreur de rejeter d'un bloc ces tribunaux.
C'est faux de dire que tous ces tribunaux offrent un service déplorable. Certains gèrent les demandes de divorce très rapidement. Cela dit, j'estime que pour les femmes qui se sont mariées civilement, le divorce civil devrait suffire. Et les tribunaux devraient dire ça aux femmes qui vont les voir. Mais certaines voudront quand même le sceau d'une approbation islamique.
Zlaka et Shaista veulent réguler les tribunaux plutôt que les interdire. Elles avouent qu'il y a parfois des abus, mais les rendre illégales ne ferait que créer un réseau souterrain encore plus difficile à observer.
Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi joue donc son va-tout ce week-end avec le référendum constitutionnel. L'idée de la réforme est de donner plus de stabilité politique tout en réduisant les pouvoirs du Sénat. Mais la consultation s'est depuis transformée en vote pour ou contre Matteo Renzi. Et la partie est loin d'être gagnée, notamment en Sicile où l'on retrouve Cécile Debarge.
C'est son ultime déplacement dans la capitale sicilienne, un des derniers qui lui sera consenti. Matteo Renzi sera présent à Palerme ce vendredi, moins de 48 heures avant le début du scrutin, pour marteler coûte que coûte ce slogan qu'il a fait sien durant toute la campagne, « Basta un sì », il suffit d'un oui. C'est la troisième fois en un mois et demi que le président du Conseil fait campagne en Sicile. Son dernier déplacement, il y a 15 jours, ayant dû être abrégé et sa visite au chantier naval de la ville annulée alors qu'un groupe d'ouvriers l'attendait de pied ferme et s'était mis en grève. Matteo Renzi le sait, ce référendum a cristallisé autour de lui tous les mécontentements contre la politique qu'il mène depuis son arrivée au pouvoir en février 2014. Lui, qui avait promis de démissionner en cas de victoire du non, est revenu sur ses propos, suscitant plus de colère encore de la part de ses opposants. Dimanche à Palerme, sur l'initiative du mouvement 5 étoiles, des centaines de personnes ont défilé dans le centre-ville, les visages couverts de masques blancs et un cercueil en tête de cortège recouvert du drapeau italien pour représenter la mort de la Constitution. Un symbole lourd de sens dans une ville où les cercueils qui traversaient la ville au milieu de la foule ont été pendant de longues années ceux des victimes de mafia. C'est dire donc la virulence des opposants à cette réforme constitutionnelle. Au même moment, à Rome, des dizaines de milliers de personnes défilaient dans la rue, venues de toute l'Italie. Une centaine de bus étaient partis tôt le matin d'une soixantaine de villes de province. Leur slogan est tout autre, il y a ceux qui disent non, et pour le moment, ce sont eux qu'on entend le plus.
We'll be proud to say, I am an European.
La violence faite aux femmes, un fléau dénoncé dans le monde entier, y compris cette année lors de la journée du 25 novembre. En Europe, un tiers des femmes déclarent avoir subi des violences physiques ou sexuelles. Et la France est loin d'être en reste dans ce domaine par rapport aux autres pays européens. C'est ce que va nous expliquer Daniel Vigneron du site MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Quelle est la situation en France?
Selon l'enquête de l'INET sur la violence et les rapports de genre pour l'année 2015, 550 000 femmes ont fait l'objet l'an dernier en France d'une agression sexuelle et, parmi elles, 62 000 ont été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Pourtant, selon le ministère de l'Intérieur, moins de 12 000 viols de femmes ont été enregistrés par la police. À l'évidence, de nombreux viols ne sont pas déclarés, notamment s'ils se produisent au sein de la famille.
En termes de viols, comment se situe la France par rapport à d'autres pays européens, Daniel?
Selon le Bureau des Nations Unies pour les drogues et le crime, la France se classe au 6e rang européen avec 17 viols pour 100 000 habitants en 2013. Elle est devancée par la Suède, 59 pour 100 000, la Belgique, 28, ou encore la Norvège ou la Finlande. Elle est en revanche bien devant l'Allemagne, 9 viols pour 100 000 habitants, les Pays-Bas, et encore plus l'Espagne, qui enregistre 6 fois moins de viols que l'Hexagone. L'Espagne est pourtant le pays d'Europe où l'on compte le plus de femmes tuées sous les coups de leurs maris.
Ce qui semble démontrer que ces différences reflètent la plus ou moins grande propension à déclarer ces agressions.
En matière d'agression contre les femmes, toute la question est là, en effet. Pour cette raison, il convient de privilégier les enquêtes systématiques par rapport aux chiffres de la police. Référence à la matière, l'enquête de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux qui a réalisé en 2014 42 000 interviews de femmes dans tous les pays de l'Union. Lorsqu'on leur demande si elles ont été victimes de violences physiques ou sexuelles depuis l'âge de leurs 15 ans, un tiers des Européennes répondent par l'affirmative. Mais les Françaises sont 44% à se déclarer avoir été victimes, ce qui les place en 5e position sur 28. Le fait surprenant est que la France est devancée par 3 pays scandinaves, Danemark, Finlande et Suède, ainsi que par les Pays-Bas, des pays où la violence sexiste serait donc plus prégnante. A l'inverse, l'Allemagne connaît moins de violences que la France, 35% de victimes, et l'Italie ou l'Espagne sont encore plus paisibles avec 27 et 22% de victimes. Autre surprise, le pays de l'UE le moins violent à l'égard des femmes est la Pologne.
Mais comment des pays où l'égalité homme-femme est la mieux respectée pourraient-ils être les plus violents ?
Vous avez raison Frédéric, il y a un biais souligné par la députée européenne Elisabeth Morin-Charlier, spécialiste de cette question. Selon elle, dans les pays égalitaires où les femmes sont plus sensibilisées à leurs droits fondamentaux, elles se sentent plus légitimes à dénoncer les violences subies. En somme, dans des sociétés plus machistes, les femmes osent moins parler, même dans le cadre d'un entretien individuel, et peut-être relèvent-elles moins les violences mineures.
Peut-on dire que ce classement a encore un sens ?
Il a malgré tout du sens et il est très riche d'enseignements même. Premièrement, si la Scandinavie égalitaire déclare beaucoup de violences sexistes, cela donne à penser que celle-ci est sous-estimée ailleurs. Donc, le phénomène est de très grande ampleur et pourrait toucher une majorité de femmes en Europe. Mais deuxième enseignement qui relativise le premier, il n'y a pas de lien évident entre égalité homme-femme et violence.
Et qu'est-ce qui permet d'affirmer cela, Daniel ?
L'enquête de l'Agence pour les droits fondamentaux démontre d'une part une forte corrélation entre urbanisation élevée, celle des pays les plus développés, et violences faites aux femmes. D'autre part, l'égalitarisme homme-femme accroît aussi les facteurs de risque dans la mesure où les femmes sortent plus et surtout travaillent plus, ce qui les expose à la violence au travail, d'autant plus fréquente que les femmes occupent des positions hiérarchiques élevées. En outre, contre toute attente, la violence conjugale ou familiale est moins déclarée dans les pays égalitaires que dans les autres. Ainsi, 10% des femmes danoises ou finlandaises déclarent la violence de leur conjoint contre 23% des femmes roumaines ou portugaises. Ce qui donne à penser que les femmes émancipées ont encore plus honte d'être victimes de la violence de leurs proches que les autres.
Le classement de l'Agence européenne des droits fondamentaux n'est donc pas si simple à analyser.
Oui, pour toutes ces raisons évoquées tenant au degré élevé d'égalité des femmes, les violences qu'elles subissent sont nombreuses dans le nord de l'Europe. Un certain type d'égalitarisme des sexes, hérité du modèle soviétique, pourrait expliquer une violence moindre entre hommes et femmes dans les pays de l'Est européen. Une conclusion semble s'imposer. La lutte contre la violence faite aux femmes est un combat vraiment spécifique qui a peu à voir avec leur degré d'émancipation ou leur milieu socio-culturel.
Merci Daniel Vigneron. À la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Voilà presque 30 ans que le Téléthon récolte les dons des particuliers pour financer la recherche contre la myopathie, une maladie génétique qui, dès l'enfance, s'attaque progressivement à tous les muscles du corps. La science progresse et a permis d'allonger considérablement la durée de vie. À l'Institut eMotion de l'hôpital Trousseau à Paris, cofinancé par un laboratoire américain, on combine consultation, recherche et essais cliniques. Emmanuel Rebaud est allé rencontrer l'équipe médicale et des jeunes patients.
Bon, ben j'en mettrai d'autres alors de films sur la clé USB. Je pense que vous l'avez déjà vu, Monstre et Compagnie. C'est quand ils sont jeunes à l'université américaine.
3 heures de présence, le temps d'un film ou d'un jeu. Tous les mardis, Paul revient dans la même chambre. Un rituel important pour ce petit garçon de 11 ans. Au mur, des dessins, des peluches sur son lit. Avec Laurent, son papa, ils viennent d'Albi, près de Toulouse, 2 jours par semaine.
C'est une perfusion qu'ils ont toutes les semaines et dans le but d'arrêter l'évolution de cette maladie. Il se trouve que quand on est rentré dans le protocole, nous, il va y avoir 2 ans, Paul avait encore la marche. Aujourd'hui, il ne marche plus. Donc aujourd'hui, il se déplace en fauteuil manuel. On a en commande pour le moment, là, on a lancé la commande du fauteuil électrique. Mais Paul est un enfant qui se bat et qui est très courageux. Il se plaint rarement. Donc voilà. On avance et nous derrière, on avance avec lui.
Paris, Londres, Newcastle et Rome, il n'y a que 4 centres de myologie comme celui-ci en Europe. Au total, 45 enfants reçoivent ce médicament américain. Le docteur Servet, neuropédiatre et directeur d'eMotion, travaille depuis 20 ans sur ces maladies.
Quand j'étais étudiant en médecine, mes professeurs me disaient un patient avec une maladie de Duchenne, il va vivre entre 15 et 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai des patients qui ont 30, 35, 40 ans. J'en ai un qui s'est marié, qui a des enfants. J'en ai qui travaillent, qui vont à l'université. On peut se déplacer non seulement dans le temps, mais on peut se déplacer dans l'espace. On peut aller dans d'autres pays où il n'y a pas la prise en charge, où il n'y a pas les traitements actuels, où il n'y a pas les standards de soins. Et dans ces pays, on verra à nouveau des patients qui meurent avant l'âge de 20 ans. Donc oui, les choses ont changé. Elles ont changé grâce aux soins quotidiens et à l'action quotidienne des médecins, des infirmières, des kinés et des personnes qui essayent chaque jour de faire un petit peu mieux.
Petit Paul, on l'appelle ainsi car lui n'a que 8 ans, reçoit son traitement dans la chambre juste en face. C'est l'espoir, bien sûr, qui permet à sa maman de tenir, mais parfois, il y a aussi des doutes.
Je m'avance pas, en fait. Je veux pas, surtout pas dire, ça fonctionne, il a fait ça, il fait ça mieux qu'avant, parce qu'il grandit en même temps. Parce que j'ai peur de, au bout du compte, qu'on me dise, finalement, ça a pas fonctionné. Tout ce que vous avez pensé, c'est votre imagination, quoi.
Ouais, c'est pas trop pénible de venir ici toutes les semaines?
Ça, c'est pas trop pénible pour moi.
Tu dors à l'hôtel?
Ouais.
Il est bien, l'hôtel?
Oui. Mais on dort dans un 4 étoiles et puis en fait c'est pas vraiment un 4 étoiles. Ils mettent une salle de bain petite. C'est quand même bien.
À l'institut, tout est pensé pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Des fresques d'animaux, des fleurs décorent tous les couloirs. Un matériel de pointe et un personnel aux petits soins est là pour ces enfants qui souffrent d'une pathologie très grave. Comme l'explique Charlotte Lilien, kinésithérapeute, la mobilité devient au fur et à mesure une épreuve.
En fait, ils doivent parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. Mais c'est très éprouvant pour eux, ça demande énormément d'efforts. Et c'est vraiment souvent un test que tous les enfants redoutent.
Parce que voilà, c'est difficile, parfois moralement, de travailler avec des enfants qui sont atteints de ces maladies.
C'est pas tous les jours du gâteau, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est pas toujours facile, mais c'est très gratifiant. Il faut pouvoir tout donner, mais pas non plus trop, pour pouvoir se préserver soi-même aussi et faire au mieux son travail et de pouvoir au mieux accompagner les patients, enfin ses enfants et leurs parents aussi.
Si on se croise pas la semaine prochaine.
Ok.
Rentrez bien.
Merci.
La semaine prochaine, Laurent pourra à nouveau accompagner son fils à Paris grâce à la solidarité de ses collègues qui lui donnent depuis plus d'un an des jours de congé. Et ils se sont engagés tant que durera le protocole. Pour le reste, les frais de déplacement et l'hôtel, c'est le laboratoire américain qui prend tout cela en charge.
Le trafic d'êtres humains est à nouveau en une des préoccupations en Ukraine. Le scandale porte cette fois sur une enseignante dans un pensionnat qui s'apprêtait à vendre une de ses élèves à un trafiquant d'organes pour 10 000 dollars à Kiev, Sébastien Gobert.
L'enseignante de 52 ans était en contact avec les trafiquants depuis l'été. Elle a passé quelques mois à se rapprocher d'une jeune fille de 13 ans, à fournir des photos à ses associés et à se renseigner sur son état de santé. La police a été informée de la transaction et l'a arrêtée sur le vif. Les détails de l'enquête, on les connaît grâce à un post Facebook du ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov. L'enseignante risque 12 ans de prison, mais lui considère qu'elle devrait être enfermée à vie. Ce cas a été très médiatisé, mais la police d'Arsène Avakov ne parvient malgré tout pas à arrêter tous les trafiquants. Selon l'Organisation internationale des migrations, depuis l'indépendance du pays en 1991, plus de 160 000 Ukrainiens ont été victimes de trafic en tout genre. Travail forcé et esclavage moderne, prostitution et trafic d'organes. Une députée nationale recense 777 cas depuis le début 2016. Une partie de la population vit dans une précarité extrême et la guerre dans l'est du pays a encore aggravé cette situation. Des milliers de personnes appauvries sont poussées vers des voies très dangereuses. Des pays comme la Moldavie, la Russie, le Kazakhstan ou la Turquie sont aussi frappés par ces phénomènes. Les victimes sont le plus souvent leurrées par la perspective d'un voyage à l'étranger, vers la Russie, l'Europe de l'Ouest ou encore Israël, avant de se retrouver piégés, exploités et parfois tués pour leurs organes. En 2015, 14 pays européens ont signé un premier traité pour lutter contre le trafic d'organes qui représenterait une industrie de plus d'un milliard de dollars par an dans le monde. Un rein, un foie, un cœur ou encore un autre organe vital peuvent coûter entre 50 000 et 100 000 dollars. Une somme à répartir entre tous les intermédiaires de la chaîne, comme cette enseignante ukrainienne, aujourd'hui le symbole d'un fléau bien ancré dans l'Ukraine contemporaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. À demain.
L'épopée des musiques noires.